tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Le 5 mai 1925, c'est à Montjoly que la police retrouvait le corps de Marie-Louise Roy. L'enquête a permis de déterminer qu'elle avait été empoisonnée. Rapidement, les accusations se sont déposées contre son mari, Ulrich Germain, qui était un cheminot de 44 ans. Son procès s'est déroulé à Rimouski le 25 mars 1927 devant le juge Adolphe Stein. Les jurés ont mis 35 minutes seulement à le déclarer coupable, sans aucune recommandation à la clémence. Donc, ça veut dire que la preuve était drôlement solide concernant l'accusation de meurtre, donc avec préméditation. Les journaux de l'époque ont parlé d'une foule compacte qui a envahi la salle d'audience afin d'entendre prononcer le verdict. Germain, lui, de son côté, a reçu sa sentence sans broncher. Par contre, ses fillettes qui se trouvaient dans la pièce voisine ont éclaté en sanglots. Évidemment, elles étaient déchirées dans ce drame-là. Elles venaient de perdre leur mère et elles allaient aussi perdre leur père. Lorsque le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à déclarer, Germain aurait lancé, et je rouvre les guillemets, « Je jure que je suis innocent du crime dont on m'accuse. Mes enfants ont été montés contre moi. Je leur pardonne, malheur à ceux qui ont contribué à me faire condamner. » Donc ici, on a affaire évidemment à un homicide par un conjoint non suicidaire, et non seulement non suicidaire, mais qui fait du déni, donc qui nie avoir tué alors que la preuve était semblait quand même assez solide. Et bon, bref, il a été pendu, M. Germain. Une première fois, sa pendaison avait été fixée au 27 mai, mais il a finalement été pendu le 10 juin à 8 heures du matin. Donc, ce qu'il y a de particulier ici, ben évidemment, c'est l'empoisonnement. Comme je l'ai dit dans une précédente balado, on a déjà cru que le poison était souvent l'arme préférée des meurtrières, donc des femmes. Mais c'est pas vrai. J'ai pas le pourcentage, par exemple. Là, c'est peut-être plus prononcé chez les femmes qui décident d'être tueuses, parce qu'il y a beaucoup moins de femmes qui commettent des homicides que des hommes. Mais voilà, ici, pour tuer sa femme Marie-Louise, ben M. Germain a utilisé le poison. Au cours de la soirée du 21 décembre 1926, Armandine Reeves, alias Irène Desjardins, donc probablement son nom de fille, est arrivée à l'appartement, s'est présentée donc à l'appartement numéro 12 du 204 avenue de l'Hôtel de Ville à Montréal. Ce soir-là, elle venait rendre visite à Alice Cooper, la locataire des lieux. Et ici, évidemment, Alice Cooper, c'est une dame et non pas le fameux chanteur rock. Non, 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 c'est pas la même chose, c'est pas la même personne. Un peu plus tard, André Morel, le nouveau copain d'Armandine, lui est venu les rejoindre ensuite de ça. Vers 23h15, il y a deux autres hommes qui débarquaient sur les lieux, c'est-à-dire Georges Merle et Élie Baronnès. Il y a une querelle peu de temps après qui a éclaté entre Armandine et Georges, donc Georges Merle, qui serait bientôt le principal suspect dans cette affaire-là. Ce dernier, lui, Merle, y insistait pour qu'elle revienne auprès de lui. Donc, c'était son ancien amant, encore une chicane entre conjoints. Donc, ici, on aura compris que c'est un ex-conjoint, mais qu'il n'y a pas vraiment de différence là, concernant la catégorie d'homicide. Puis, il a même dit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a entendu dire « Tu ne resteras pas avec lui », alors avec son nouveau copain, qui était André Morel, âgé de 30 ans. Et devant le refus de la belle, M. Merle s'est dirigé vers le boudoir où se trouvait Morel. Et le jeune amant est conduit, ben, a alors sorti un revolver sans aucune hésitation. Une arme de calibre 32, il l'a sorti de sa poche arrière et a tiré à deux reprises sur son rival, donc sur André Morel. L'un des projectiles a atteint Morel en plein ventre, ce qui l'a obligé à s'écrouler dans un fauteuil. Et rapidement, comme on peut le deviner, bien Georges Merle, avec son copain Baronnais, ont quitté les lieux assez rapidement. Le lendemain, les journaux croyaient déjà que le complice de Merle était d'origine italienne. Comme je le disais un peu plus tôt, la victime ici n'est pas la conjointe de Georges Merle, mais tout de même, on considère ça comme un homicide domestique par un ex-conjoint, ici non suicidaire, parce qu'il a voulu faire payer. C'est quand même à elle qui était visée dans ça, même s'il est allé tirer délibérément sur son nouveau chum. Alors voilà, c'est quand même la même catégorie, donc je vois pas qu'il y ait de confusion de ce côté-là. Et bon, après les coups de feu, rapidement, Armandine, elle a trouvé un téléphone pour contacter la police. On n'a pas traîné de ce côté-là. Il était 23h45 quand que le lieutenant Desrosiers a reçu l'appel de la jeune femme, qui lui a lancé « Envoyez des constables immédiatement au numéro 204 de l'avenue Hôtel de Ville. Un homme se meurt. » Et peu de temps après, c'est en motocyclette qu'un certain sergent Pelletier s'est présenté sur les lieux en compagnie des agents Ward et Rattel. Dès leur arrivée dans l'appartement, eux, ils ont trouvé la victime étendue dans un fauteuil et ses vêtements ouverts, tellement que la perforation créée par la balle était en évidence, là, celle qu'il avait reçue dans le ventre, les policiers pouvaient la voir assez facilement. Donc, ce qui était facile dans cette enquête-ci, c'est qu'on savait déjà, il y avait des témoins, donc on savait déjà qui était le tueur. Alors, on a lancé un avis de recherche, évidemment, donc on savait que c'était Georges Merle, un jeune homme de 26 ans. Et selon la patrie, il était bien connu des milieux policiers et interlope. Aha! Mais on n'en dit pas plus, malheureusement. Donc, est-ce qu'il faisait partie de la petite pègre, quelque chose comme ça, de l'époque? C'est possible. Évidemment, la police a mis beaucoup d'efforts à le retrouver. Si bien qu'il y a une quinzaine d'agents de la Sûreté de Montréal qui agissaient sous la direction de l'inspecteur Hector Mercier qui ont été chargés de le retrouver. Donc, voilà, on a pris la peine de former une équipe pour le retrouver. Donc, on n'a pas de lésiner sur les moyens. De son côté, Armandine Reeves a collaboré avec eux, évidemment, là, en leur fournissant les noms de Merle et de son compagnon et tout ce qu'elle pouvait savoir d'utile à l'enquête. Le 22 décembre, donc le lendemain du drame, vers 11h30 du matin, il y a une Italienne qui s'est présentée au bureau du chef de la police provinciale, qui à l'époque était Dieudonné Daniel Lorrain, pour demander à voir le corps. Évidemment, ça a surpris M. Lorrain, mais elle avait quand même un bon argument parce qu'elle pensait pouvoir l'identifier. Et malheureusement, elle a été incapable de l'identifier formellement. On sait seulement plus tard qu'on a appris que André Morel, âgé d'environ 30 ans, arrivait de Chicago et de Calgary. Ensuite, il y a une autre personne qui entre en scène, c'est Yvette Plante, la copine de Baronnais, donc celui qui accompagnait le tueur le soir du drame. Elle aussi a collaboré avec les enquêteurs, sans compter que Baronnais lui-même s'est livré aux autorités. Donc, il voulait pas. Il y a eu des regrets probablement. De toute façon, c'est pas lui qui avait appuyé sur la détente. Et Baronnais leur a expliqué avoir promis à Merle de lui présenter un homme capable de lui faire passer la frontière. Donc, ça veut dire que Merle s'apprêtait à fuir le Canada, ou plutôt le Québec. Et les policiers ont pris ça au bon, parce qu'en discutant avec Baronnais, ben, ils ont compris que Georges Merle il était en train d'attendre son contact, si on veut, dans son appartement de la rue Dorchester. Alors, le sergent détective Inès, se faisant passer pour cette personne ressource, ben, il s'est présenté au logement de Merle, qui a accepté de le suivre dans sa voiture. Donc, un petit coup d'agent double ici, là. Et plutôt que de le conduire vers la frontière américaine, évidemment, bien, le sergent détective Innes a filé directement au poste de police et, surprise, Monsieur Merle, vous êtes en état d'arrestation. Finalement, c'est dans une boîte située au-dessus du bain de l'appartement 214 rue Sainte-Catherine-Est qu'on a retrouvé l'arme du crime. C'est là que Georges Merle l'avait cachée. Dans sa livraison du 23 décembre, le journal La Patrie écrivait que Merle et Baronnaise étaient d'origine française. Puisque les suspects étaient sous les verrous, le coroner McMahon a donc pu reprendre son enquête, évidemment, avant de les déclarer criminellement responsables de la mort de Morel. C'est aussi par La Patrie qu'on a appris que l'une des femmes présentes sur la scène de crime avait une accusation pendante relative à une maison de désordre située rue Dorchester. Alors voilà, ça semble confirmer. C'est sûr que les journaux étaient très prudents, il y avait des sujets tabous à l'époque, donc quand on le voit écrit comme ça, c'est sûr que ça concerne la prostitution, c'est évident. Et on avait même mentionné que Georges Merle était du milieu interlope, donc c'est un crime entre conjoints, oui, mais qui n'est pas comme un couple, si on veut, plus personnel, là, plus domestique, plus normal. Alors voilà, la victime était plus à risque, mais finalement, c'est le nouveau chum de l'ex-copine qui a tout écopé dans ça. L'autopsie a été réalisée par le docteur Wilfrid Durham dans la série Féminicide. C'est la première fois qu'on croise ce monsieur, mais on va sûrement le croiser à plusieurs reprises dans d'autres balados parce qu'on va en parler des homicides ici. Inquiétez-vous pas. C'était la sommité à l'époque à Montréal. Il avait ouvert en 1914 son laboratoire de médecine légale à Montréal. Je crois que c'était sur la rue Craig avant d'être transféré plus tard sur la rue Parthenay, là où on retrouve maintenant le centre médico-légal et de la Sûreté du Québec également. Dans son autopsie, le docteur Wilfrid Durham, bien, lui, a retrouvé le projectile dans le côté droit de la victime et que l'on croyait d'origine française ou belge. Et il a remarqué aussi que sur lui, il avait trouvé un livret de banque indiquant qu'il possédait un peu plus de 300$ dans le compte d'une banque montréalaise. Le procès de Merle et de Baronnaise s'est ouvert devant le juge Charles A. Wilson au Palais de justice de Montréal le 21 février 1927. Baronnaise a été reconnue coupable d'homicide involontaire, mais son co-accusé n'a pu échapper à la corde. Reconnu coupable de meurtre, Merle a d'abord été condamné à être pendu le 10 juin, mais il a eu droit à un sursis qui a repoussé le jour du dernier acte de cette tragédie au 5 août 1927. Et on dit que sur l'échafaud, c'est ce qu'on rapporte à propos du contexte de l'exécution, c'est qu'un coup qu'il est monté sur la potence, fait étrange, Georges Merle se serait lui-même passé la corde au cou. Il ne voulait pas que ce soit le bourreau qui le fasse. Alors, la leçon qu'il faut tirer de ça, c'est que dans les homicides, j'en ai même vu un cas récemment en 2022, que c'est soi-disant un copain qui a écopé de la violence d'un ex-conjoint et tout ça. Donc, c'est pas toujours la femme qui décède dans ces prises de rage-là par les hommes jaloux et possessifs. Alors, il faut quand même retenir ça aussi. C'est pas toujours la conjointe qui se fait tuer. Encore une fois, le prochain féminicide que je vais vous raconter semble se passer dans un milieu un peu étrange. Ça se passe dans la soirée du 2 juin 1928. Au troisième étage d'une maison de chambre qui se situait au 147 Est rue Vitré, à Montréal. Il y a Alphonsine, Fisette Laperrière, qui était âgée de 42 ans. C'est elle qui a été la victime de la jalousie de son mari, qui lui se nommait Joseph Chabot. Et Chabot, dont le nom me rappelle toujours le fameux personnage de la guerre des tuques, je vais arrêter ça là parce qu'on va se perdre dans les blagues idiotes. Lui, il occupait la chambre numéro 9 avec sa femme. Alphonsine aussi, il faut le préciser, était la mère de 5 enfants, dont l'aîné avait déjà 21 ans. Lui, Chabot, il était jaloux de la présence d'un autre pensionnaire qui s'est installé dans l'immeuble depuis quelques semaines. Alors, c'est là qu'il a commencé à menacer sa femme. Tout simplement, il a dit carrément qu'il allait la tuer. Donc, le samedi soir, c'est au cours d'une dispute encore plus violente qu'à la normale que Chabot, bien là, les fils se sont touchés. Et puis, il l'a étranglé dans un premier temps avec ses deux mains avant de lui enfoncer une lame de 6 pouces dans la poitrine et la gorge. Donc, il était pas mal décidé à la tuer. Surtout quand on dit qu'il y a deux moyens, c'est pour ça que c'est important de relever les façons que la victime a été tuée. Ici, ben, c'est strangulation et arme blanche, et on va même en rajouter une troisième, c'est par incendie. Donc, quand il y a deux moyens qui sont utilisés, on peut assurément, en tout cas assez certainement, en déduire que ça confirme la rage et la détermination du tueur. Et comme je le disais, comme si c'était pas assez, ben il a continué à la frapper à la tête avec une bouteille de bière. Donc, on peut même en rajouter une quatrième, ce qui est un objet contondant. Et ensuite, ben il l'a recouverte de papier et autres matières inflammables et il a mis le feu. Ensuite, c'est l'odeur de la fumée qui a été rapportée au propriétaire, Joseph Saint-Germain, qui s'est chargé d'enfoncer la porte pour découvrir l'horrible scène de crime. Lui a eu le temps de constater que le cadavre, le feu était quand même pas très répandu, là, d'après ce que je peux comprendre de cette histoire-là. Et il a pu remarquer que le cadavre était étendu sur une chaise, la tête légèrement appuyée sur le manche du couteau que l'assassin lui a plongé dans la gorge. Bref, il y a des images qui me viennent. Je vous laisse les vôtres. Ça va être correct comme ça. Le meurtrier a été arrêté dans la rue une quinzaine de minutes après seulement, donc ça s'est fait assez rapidement. Il a été conduit au poste et assez vite, il est passé aux aveux. Comme je vous le disais, ça arrive assez régulièrement dans ces cas-là. C'est la rage qui leur fait, qui les fait réagir, une rage souvent accumulée et une rage souvent injustifiée aussi, je pense. En tout cas, au moins un certain niveau de rage, une bonne partie de cette rage-là, c'est eux qui se font leur propre scénario dans la tête, puis ça s'amplifie à ce moment-là. Mais oui, il a passé aux aveux, mais il a quand même dit ensuite qu'il se sentait satisfait de ce qu'il venait de faire. C'est assez ordinaire, hein? Il a même ajouté là-dessus, et j'ouvre les guillemets, « Elle a voulu me frapper avec une bouteille de bière, et pour me défendre, je l'ai tué », dira-t-il. OK. Pour se défendre, il l'a étranglé, il l'a poignardé à deux endroits différents, il l'a frappé avec une bouteille, puis il a mis le feu. Hein? C'est tout qu'un défenseur, ça, mon ami. Et la nuit suivant son arrestation, encore une fois, comme d'autres hommes violents qu'on a vus précédemment, ben il a dormi comme un bébé dans sa cellule. Hein? C'est pas beau, ça? Il faut croire que c'est chanceux d'être célibataire parce que je pense que je tuerais ma blonde juste pour mieux dormir. Non, faut quand même pas dire des conneries pareilles. Mais c'est assez étrange, ça, ce phénomène-là. C'est pas le premier à qui ça arrive. Puis je sais pas, là, c'est assez spécial. Et par ailleurs, on a dit de lui qu'il était bègue aussi. Alors, monsieur Chabot n'aurait pas pu faire de podcast finalement. Hein? Le procès de Chabot s'est déroulé du 7 au 10 novembre 1928 à Montréal, devant le juge Charles A. Wilson, encore une fois. Ça a l'air qu'il était en demande à cette époque-là. Qui n'était pas inconnu d'ailleurs non plus. Il a quand même présidé des grosses causes au M. Wilson à l'époque. Le jury n'a délibéré qu'une quinzaine de minutes avant de le déclarer coupable. Son exécution a été fixée au 8 février 1929. Il serait demeuré impassible, ça c'est surtout les journalistes qui ont rapporté ça dans le prétoire. Donc Chabot, lui, n'a pas bougé d'un seul poil là, quand il a reçu le verdict en pleine gueule, comme on dit. Et en fait, il a même conservé un incroyable sang-froid tout au long des audiences, sans jamais laisser paraître le moindre remords. Et évidemment, quand le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à déclarer, Chabot a répondu « Je me défendais et de plus, j'ai débarrassé la ville d'une charogne. » Yippalaï! Voilà. Si vous cherchiez quelqu'un à détester ce soir, ben c'est M. Chabot. Et ça devait être tout un bonhomme. On en rit, mais quand même, il avait enlevé la vie à sa femme. Là. Alphonsine, il faut s'en rappeler. C'est ça qui est triste dans tout ça, mais c'est quasiment surréaliste de voir ça, en tout cas. Bref. Et au matin du 8 février 1929, il n'y a eu aucun spectateur pour assister à la pendaison. Exception faite du gouverneur de la prison, Napoléon Séguin, d'un médecin, du shérif Omer Lapierre aussi, du député, bon bref, tout ça. Alors, bye bye Chabot, on passe à un autre appel. En 1928, Rosanna Paquette avait 31 ans et elle habitait au 2089 rue Saint-Hubert à Montréal depuis environ une semaine seulement. Le 29 septembre 1928, vers 18h30, Ernest Messier, 35 ans, donc son conjoint, s'est présenté à cette adresse. Il a été reçu par le voisin Édouard Tremblay, qui lui a expliqué que Rosanna n'était pas encore arrivée, donc qu'elle n'était pas là. Alors que les deux hommes discutaient tranquillement, Rosanna est arrivée par la suite pour se joindre à eux. Et soudainement, sans que personne ne puisse le deviner là, d'après son comportement, en tout cas, Tremblay a vu la jeune femme lever une main en guise de protection. Alors, évidemment, Tremblay s'est demandé son réflexe, qu'est-ce qui était en train de se passer. Et en se retournant, il a vu que M. Messier était en train de faire feu déjà sur sa femme, sur sa conjointe. Donc, il y a un coup de feu qui est parti et Rosanna s'est écroulée en disant « Oh mon Dieu! » Et ce furent ses dernières paroles. Donc, je pense qu'elle est décédée assez rapidement. Le premier policier arrivé sur les lieux a été le constable Riel, qui avait entendu le coup de feu alors qu'il dirigeait la circulation au coin des rues Sherbrooke et Saint-Hubert. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, à cette époque-là, je ne sais pas en quelle année que ça l'a cessé, cette habitude-là, mais il y avait des policiers qui patrouillaient de jour comme de nuit un peu partout dans la ville, principalement à Montréal, mais aussi à Trois-Rivières. Là. Il y avait certaines patrouilles, donc il n'y avait pas de voiture de patrouille. On n'avait pas encore les moyens, mais il y avait au moins des patrouilles à pied. Donc, ce qui rendait, dans certains cas comme ici, l'intervention se faisait beaucoup plus rapidement. Je pense même que d'un certain côté, d'une certaine façon, l'intervention se serait faite plus rapidement à cette époque-là qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a rappelé 911, y a-t-il une voiture de disponible, blablabla, bla, bla, la voiture la plus proche est où? Est dans l'autre quartier, tandis que là, monsieur était juste au coin de la rue. Et à l'arrivée du policier, le cadavre de Rosanna était étendu sur le trottoir et Messier se tenait dans le cadre de porte. Donc, lui, il n'a pas fui les lieux de son crime, il est resté sur place. Et lorsque Riel lui a demandé pourquoi il avait fait ça, Messier aurait répondu, et j'ouvre les guillemets, « Je viens de la tuer, elle est morte, c'est fait, c'est fait. » C'est tout. En voulant dire « That's it, j'ai fait ce que j'avais à faire, point final. » Riel a donc procédé à son arrestation avant de le conduire au poste numéro 4. L'enquête du coroner a été conduite par Lorenzo Prince, et ça a permis d'apprendre que c'est un dénommé Aimé Laviolette qui lui habitait au 4151 rue Saint-Denis qui avait vendu l'arme à Messier pour la somme de 6,50 $. Voyez-vous, depuis 1900, avec l'affaire Lacroix, il avait payé 2,75 $, pauvre lui. Là, les prix ont monté. C'est l'inflation, mes amis. Et cette vente-là, on l'aura compris, c'est fait, encore une fois, l'après-midi même du meurtre. Donc, la journée même, ça peut prouver que c'est planifié, oui, mais quand même pas depuis très longtemps. Sous serment, le témoin a dit que bon, celui qui a vendu l'arme a expliqué que Messier lui avait demandé un revolver pour se défendre contre deux jeunes qui avaient voulu s'attaquer à lui. Donc, c'était son prétexte. L'enquête policière a ensuite permis d'apprendre également que la victime portait aussi le nom de Paquin. Ah, pourquoi? Que se passe-t-il? Ça veut-tu dire que Rosanna, à 16 heures, utilisait un autre nom pour... Vous savez quoi? Donc, elle et Messier auraient demeuré ensemble durant 5 ans. Ils n'étaient pas mariés, mais bon, on parle quand même de conjoints. Mais pour 1928, c'est sûr que ça peut paraître étrange. Les jeunes, vous! Bon, vous allez peut-être moins comprendre, mais jusqu'à environ, puis même encore aujourd'hui, ça peut être tabou, là, un divorce pour certaines personnes qui sont restées vieux jeu. Mais je dirais que le divorce était mal vu jusque dans les années 60 et peut-être même 70 pour certaines personnes. Alors imaginez-vous en 1928. Donc, les couples qui n'étaient pas mariés, qui vivaient ensemble, c'était honteux. Alors voilà, on peut s'imaginer que c'était des gens déjà d'une certaine catégorie. Je ne vise personne en disant ça et surtout pas, je veux pas être péjoratif parce que pour moi, toutes les victimes sont égales, sont égaux. Donc voilà, mais ça nous renseigne sur le côté à risque de la victime. Alors, si elle était une prostituée, par exemple, mais qu'elle avait resté avec lui, peut-être que c'était un peu son proxénète aussi. Alors voilà. Mais c'est pas sur ça qu'on juge le crime, c'est sur l'homicide en tant que tel. Et il a même avoué Messier aux policiers qu'il avait agi par jalousie. L'autopsie a été réalisée par le docteur Wilfrid de Rome. Voyez-vous, c'était la sommité à cette époque-là. Fait que c'est. Il en a fait, en s'il vous plaît, des autopsies. Habituez-vous donc à son nom parce qu'il va être là pas mal souvent. Donc, c'est lui qui est parvenu à déterminer que la balle avait traversé la poitrine du côté gauche et qu'elle avait été se loger dans le côté gauche entre la 8e et la 9e côte. Et il a déterminé évidemment que la balle fatale, celle qui a causé la mort, venait d'un revolver de calibre 32. Toujours selon le docteur de Rome, la mort avait pratiquement été instantanée. D'autant plus que la bouche du canon se trouvait à environ 20 pouces de la victime au moment du tir. Donc, avec tous ces détails-là, ben, pas étonnant que Messier a été tenu criminellement responsable lors de l'enquête du coroner. Le procès ensuite s'est ouvert au palais de justice de Montréal le 27 mai 1929, encore une fois devant le juge Charles A. Wilson. La défense était représentée par maître Lucien Gendron. Son nom à l'époque, je connais pas sa bio, monsieur Gendron, mais j'ai souvent croisé son nom et il était dans des grosses causes. Donc, je le devine, un des premiers criminalistes du Québec à avoir été une grosse pointure, comme on dit, là. Alors, c'est pas rien, là, que le fait qu'il soit là dans cette cause-là. Lui, il a plaidé la folie. Donc, il a essayé de sauver la vie à son client de cette façon-là. Et pour ce faire, on a invité le docteur Daniel Plouffe, qui a expliqué que l'individu sain d'esprit peut avoir une impulsion irrésistible ou une impulsion résistible. Ça, c'est sa phrase, c'est pas la mienne, c'est sûr. Ensuite, il a dit que la première n'entraîne pas la responsabilité, la seconde l'entraîne. Donc, quand on a une impulsion résistible, en tout cas, bref, vous réécouterez l'épisode. Elle entraîne la responsabilité à des degrés divers. Il est vrai, même chez un individu atteint de maladie ou d'aliénation mentale, car il y a des degrés dans la folie comme dans toute autre maladie. Ah ben, il a découvert ça tout seul, lui. Merveilleux. Ce sera au jury de dire dans quelle mesure il y a impulsion ou aliénation mentale. Donc déjà à cette époque-là, on parlait de pulsion et de tout ça. J'avoue que les pulsions meurtrières, on va surtout en parler avec le temps pour les crimes sexuels, les tueurs vraiment qui prennent plaisir à tuer. Donc, on parle là de ce tueur en série. Mais au Québec, là, on en parlera pas tant que ça. Et finalement, le jury a décidé de ne pas adhérer à la théorie présentée par la défense, malgré tous les efforts de Maître Gendron. Et c'est sans broncher que Messier a reçu le verdict de culpabilité, rendu après une quarantaine de minutes de délibération. Et finalement, M. Messier, un autre homme possessif et jaloux, qui a été pendu le 30 août 1929. Le 17 novembre 1928, un autre triste événement qui s'est produit au Québec, cette fois-ci en Estrie, et plus précisément à Bury, un tout petit village, mon Dieu, comment le décrire? J'ai déjà passé à quelques reprises, là, parce que j'ai déjà travaillé dans ce coin-là. Misère! Alors, c'est dans cette petite localité-là, à Bury, que les corps de Chancy Allison et de sa femme Alice, donc Alice Ventinaire Allison, 32 ans, ont été découverts dans l'après-midi du 16 novembre dans leur maison située à Scottstown Road, à environ 2 milles de Bury, en Estrie. Le jury du coroner Bachand a attribué la mort de l'homme à un suicide survenu lors d'un moment de dérangement mental. C'est comme ça qu'on l'écrivait à l'époque. Donc voilà, on devine déjà qu'il a tiré sur sa femme et qu'il a ensuite retourné l'arme contre lui. Mais dans le cas de sa femme, de son nom de jeune fille, Alice Ventinaire, comme je l'ai dit, elle est morte par strangulation. Donc c'est quand même étrange, parce qu'on ne mentionne pas la méthode qu'il a prise pour se suicider, mais il a quand même étranglé sa femme. Et voilà, les deux corps ont ensuite été inhumés dans le cimetière anglican d'Aubury. Je ne sais pas s'ils sont encore là, malheureusement. S'il y a quelqu'un de la région, des fois, qui veut retracer certaines scènes, libre à vous. Vous m'écrirez si vous avez les photos. On a mon adresse, je la laisse à la fin de la balado. Mon adresse courriel. Et ce qui est plus malheureux encore, c'est que le couple laissait dans le deuil au moins deux enfants. Liliane, 12 ans, et Nelly, 10 ans. Ici, on parle évidemment de 1928, donc on peut comprendre que les deux enfants sont aujourd'hui fort probablement décédés. En revenant de l'école, les deux fillettes se sont heurtées à la porte verrouillée de la chambre des maîtres. Donc, c'est elles qui ont découvert le drame en rentrant à la maison. Donc, on peut imaginer ici qu'elles rentraient de l'école probablement. Donc, ce qu'on doit retenir de cette affaire-là, c'est que ben, Chancy Allison, il aurait tenu des propos suicidaires avant sa mort. Donc, il en parlait, il y avait des signes avant-coureurs. Jusqu'à maintenant, les signes avant-coureurs, je pense qu'ils sont pas mal tous là, assez souvent en tout cas, que ce soit des menaces ou un comportement étrange, une séparation, en tout cas, bref, c'est très triste. C'est sûr que c'est pas toutes les séparations qui conduisent à des drames. Faut faire attention, on le sait tous. Mais quand même, faut presque pas faire de la paranoïa, mais garder la possibilité que ça puisse arriver tout le temps dans ces cas-là. Et redoubler peut-être un petit peu de prudence. Pas en tripler, mais au moins en doubler. Essayer de comme aux échecs, essayer de jouer un coup à l'avance, un pion. En tout cas, bref, c'est très triste. Alors, on va se quitter ce soir avec le dernier féminicide des années 20. En tout cas, de ceux que j'ai pu identifié ou trouvé dans les archives et tout ça. Donc, comme je le disais précédemment, ce sont tous ou pratiquement des cas oubliés. Donc, on n'entend plus parler, mais qui sont là. Hein, avec, c'est important de toutes les mettre bout à bout pour voir l'évolution de ce type de crime-là ou voir aussi ce qui l'entoure, ce qui se répète souvent. Ça peut nous aider peut-être à les identifier pour plus tard. Est-ce que ça nous permettra de pouvoir mieux comprendre ou en prévenir certains? Je sais pas, mais je me croise les doigts. Alors, la dernière victime de ce soir, justement, c'est la dernière de la décennie parce que ça s'est passé le 31 décembre 1929. Elle s'appelait Maria Carmela Seminero. Et ce soir-là, justement, donc c'est la nuit finalement du jour de l'an. Antonio Poliquin, son mari de 24 ans, a pénétré en trombe chez son père Hubert Poliquin, qui lui habitait au 44 rue Saint-Henri à Sherbrooke. Donc l'action se passe à Sherbrooke. Et il a déclaré à son père qu'il venait de tuer sa femme dans la chaîne en arrière. Et tout de suite, il a demandé à son père aussi « Allez chercher mon enfant qui est dans la neige et qui pleure. » Wow! Méchante, mettons qu'il y a de quoi être surpris en entendant une chose comme ça. Donc, le bonhomme Poliquin, lui, il n'a pas attendu une minute. Hein? Alors, il a suivi, il est allé voir ce qui s'est passé. Et on a effectivement découvert sa femme, Maria Carmela Seminero, devant le hangar de la propriété. Elle était déjà morte, malheureusement. Elle portait des traces de 3 profondes coupures de rasoir à la gorge. Donc, arme blanche, rasoir, il lui a tranché la gorge. Pour sa part, Antonio a été conduit d'urgence à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul puisqu'il avait tenté de se suicider en utilisant la même arme. Donc, est-ce qu'il a essayé de se trancher la gorge ou les poignets? C'est pas précisé, malheureusement. Mais, donc, ici, automatiquement, on parle d'un homicide domestique par un conjoint suicidaire. Le procès de Poliquin s'est déroulé du 20 au 24 novembre 1930 à Sherbrooke, devant le juge Charles D. White. Il a été reconnu coupable et on l'a renvoyé en prison. Dans l'attente de son exécution. Parce qu'évidemment, un meurtre, ça égalait toujours à une pendaison. On l'a d'abord décrit comme un détenu mal disposé. Je ne sais pas ce qu'on a voulu dire par ça, mais c'est les mots. J'utilise les mêmes mots que j'ai trouvés dans les documents de mes recherches. Mais il a fini par trouver un certain équilibre. Donc, probablement qu'il était agité ou quelque chose comme ça, mais il vivait mal avec ça. Et la veille de son exécution, donc le 19 février 1931, il a reçu, en plus de son père et de plusieurs membres de sa parenté, des prêtres et des religieuses qui sont venus le réconforter. Et au matin du février, Poliquin a marché vers l'échafaud en compagnie de l'abbé Ira Bourassa. Juste avant de mourir, il aurait déclaré « Mon Dieu, je vous donne ma vie ». C'était une autre balado de mémoire d'archives. Si vous avez des suggestions à me faire, écrivez-moi à eric.veillette@hotmail.ca. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.